RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La revue suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. RRI est choisi comme radiodiffuseur sous licence de la Coupe du Monde 2018. Le gouvernement encourage l'amélioration des connaissances communautaires sur le cancer. Les Pays-Bas se concentrent sur le développement agricole durable en Indonésie. Le président a reçu la délégation du ministre sud-coréen de la Défense. L'Indonésie soutient l'ensemble des membres du Timor-Oriental. Et enfin, l'île de Bali, une destination touristique des Slovaques. Voici le journal complet. La Coupe du Monde est l'un des plus grands événements sportifs qui peuvent être appréciés par les gens dans tout le monde. La Coupe du Monde 2018 aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 avec la Russie en tant qu'hôte. Afin que cet événement puisse être profité par les handicapés, le Football Momentum Asia ou FMA reconnaît RRI comme radiodiffuseur licencié de la Coupe du Monde 2018. Après une conférence de presse aux galeries Tri Prasetya RRI mardi, le président de FMA, David Kim, à la Voix d'Indonésie, a déclaré « La raison principale de choisir RRI en tant que radiodiffuseur licencié de la Coupe du Monde 2018. »
For me, radio has more public interest than anything else. And I wasn't about to, yes.
Pour moi, la radio a plus d'intérêt que toute autre chose. Mais en même temps, nous devons faire quelque chose qui va profiter à tout le monde, surtout les 1,5% de la population qui ne peuvent pas voir et apprécier le jeu. L'autre partie va sûrement changer toutes les choses concernées par la Coupe du Monde, en une grande opportunité de faire de la publicité et c'est suffisant avec la télévision. Donc, c'était ma principale raison de collaborer avec RRI. À la même occasion, le mémorandum d'accord entre Radio République Indonésia et FMA a été signé. RRI, qui a plus de 90 stations de radio Indonésie, espère apporter la Coupe du Monde jusqu'aux régions reculées d'Indonésie. Le membre du Conseil consultatif présidentiel, Agung Gumelar, le secrétaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, Gatot Dewa Broto, le président de la Commission nationale de la radio et de télévision, Julien Dré Darwis, et le personnel de direction de RRI ont assisté à la conférence de presse et au lancement de RRI comme radiodiffuseur licencié de la Coupe du Monde 2018. Le gouvernement indonésien, par le ministère de la Santé, a souligné l'importance d'améliorer la connaissance et la compréhension du cancer avant la Journée mondiale contre le cancer 2018. le directeur de prévention et de contrôle de maladies du ministère de la Santé, Mohamad Subuh, à Jakarta, a dit que l'augmentation de la compréhension du public contre le cancer pouvait réduire la mortalité et la morbidité de la société. Selon lui, le niveau de compréhension élevé du public sur le cancer aura également un impact sur les changements de comportement en bonne santé dans la société.
Ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan pada Hari Kanker Sedunia. Yang pertama adalah
Il y a certaines choses que nous voulons rappeler à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Le premier consiste à accroître les connaissances et la compréhension de la communauté au sujet du cancer. Les gens plus comprennent comment le cancer peut se produire, comment prévenir, comment avoir accès aux services. Nous réduirons les taux de morbidité et de mortalité de la maladie. Nous espérons qu'avec la compréhension du cancer, il va également développer la compréhension de notre comportement de vie sain. Je pense que ces deux choses sont très importantes concernant la commémoration de la Journée mondiale contre le cancer. La Journée mondiale contre le cancer est commémorée tous les 4 février de chaque année. Le thème commémoratif de la Journée mondiale contre le cancer de 2016 à 2008 est « Nous pouvons, je peux ». Ce thème vise à diffuser le message à tout le monde, à la fois collectivement et individuellement, pour jouer un rôle dans la réduction du fardeau et des problèmes du cancer. En Indonésie, le fardeau du cancer est encore assez élevé. Sur la base des résultats de recherche sur la santé fondamentale en 2013, la prévalence des tumeurs ou du cancer en Indonésie est d'1,4 pour 1000 habitants, soit environ 347 000 personnes. Le cancer le plus élevé chez les femmes est le cancer du sein et du col d'utérus, alors que chez les hommes, c'est le cancer du poumon. Les Pays-Bas sont un pays qui dépend du secteur agricole. Le Royaume des Pays-Bas est le deuxième plus grand exportateur de produits agricoles au monde. Par conséquent, ce pays s'est continuellement engagé à réaliser le secteur de l'agriculture durable, y compris avec l'Indonésie en tant que pays partenaire de la coopération. Les projets de coopération agricole entre les Pays-Bas et l'Indonésie continuent à rechercher un secteur agricole durable. Cela a été transmis par l'ambassadeur adjoint du Royaume des Pays-Bas en Indonésie, Ferdinand Lachten, à la Voix d'Indonésie à Jakarta, mardi.
We want them to learn sustainable practices because if they want to continue also farming in the
Nous voulons apprendre des pratiques durables s'ils veulent continuer à cultiver à l'avenir. S'ils ne sont pas durables, la terre se dégradera et ils ne pourront plus l'utiliser pour l'agriculture. La durabilité est également un pilier essentiel de l'approche que nous utilisons pour réaliser les projets. Ferdinand Lachten a ajouté que le développement agricole durable a été fait par le gouvernement néerlandais il y a 2 décennies. L'un des efforts visant à réaliser le secteur de l'agriculture durable est de créer un système appelé Triple Hélice, qui implique des entrepreneurs, des organisations non gouvernementales et des établissements d'enseignement. Ce système sera également appliqué en Indonésie. Le président Joko Widodo a accepté la délégation du ministre sud-coréen de la Défense, Song Yong-mu, au Palais Merdeka Jakarta, mercredi. Le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizat Triakudu, après avoir accompagné le président, a affirmé qu'à cette réunion, le président avec la délégation du ministre sud-coréen de la Défense ont discuté de l'intensification de coopération dans tous les domaines, y compris le domaine de la défense. Ria Mizat Triakudu a expliqué le président Joko Widodo a promis de revenir en Corée du Sud cette année. Comme indiqué le secrétariat du cabinet, le ministre de la Défense de la Corée du Sud, Song Yong-mo, a déclaré l'année dernière « Corée et Indonésie ont convenu d'améliorer les relations entre le partenariat stratégique spécial. Sur la base de cet accord, sa partie établira la coopération plus étroite dans divers domaines, y compris la défense, la diplomatie et l'industrie de la défense. » Song Yong-mo a également souligné que l'Indonésie et la Corée du Sud allaient de pair parce que l'Indonésie est considérée comme un pays qui est très important pour la Corée du Sud. les efforts du Timor oriental pour se joindre à l'Organisation régionale de l'Asie du Sud-Est ou l'ASEAN est pleinement soutenu par l'Indonésie. La poursuite de l'adhésion du Timor oriental à l'ASEAN sera bientôt discutée par le secrétaire général de l'ASEAN à Jakarta. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, en marge d'une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Timor-Leste, Aurelio Guterres, à Gedung Pancasila, le ministère des Affaires étrangères à Jakarta, mercredi. Selon la ministre Retno Marsudi, concernant l'adhésion du Timor oriental à l'ASEAN, l'Indonésie veut encore voir le résultat des études liées à cette question. Mais en principe, l'Indonésie continuera à soutenir l'adhésion du Timor oriental à l'ASEAN. L'île de Bali est toujours une destination touristique préférée pour les habitants de la Slovaquie, bien qu'il y ait les nouvelles sur le Mont Agung. Le conseiller d'information sociale et culturelle de l'ambassade indonésie de Bratislava, Lili Meiliani, a dit à Antara jeudi que cette question se reflétait dans le nombre de questions de visiteurs du stand indonésien à International Travel Fair Slovakia Tour 2018 dans le bâtiment Expo Inceba, Bratislava, Slovaquie récemment. L'ambassadeur d'Indonésie en Slovaquie, Adiyat Widi Adiwoso Asmadi, a déclaré qu'en dehors de Bali, une destination touristique sur Sumatra est également devenue la cible des citoyens slovaques. À cette fin, l'ambassade d'Indonésie de Bratislava invite l'agence de voyage de Sumatra du Nord, Ravelino Tour et Dewi Mustika Tour, à promouvoir des destinations touristiques de Sumatra du Nord, en particulier le lac Toba et ses environs. Selon le président de Inceba, Alexander Rosin, l'Indonésie a un grand potentiel pour attirer les touristes étrangers d'Europe centrale et orientale. La participation de l'Indonésie est très appréciée. Salutaire, c'est le journal pour ce soir.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, la facilité du permis des travailleurs étrangers. L'Indonésie poursuit maintenant son objectif de croissance économique. Par conséquent, plusieurs efforts sont faits par le gouvernement en publiant diverses politiques et réglementations comme la facilité des permis d'investissement et des travailleurs étrangers pour pouvoir faire leurs activités en Indonésie. Au sujet de la poursuite de l'objectif de croissance économique indonésienne, le président Joko Widodo a demandé à tous les ministres du gouvernement de faciliter l'investissement, les exportations à l'entrée dans la catégorie des travailleurs étrangers en Indonésie. À cette fin, le président a ordonné les ministères qui soutiennent la performance de l'investissement commercial afin que le permis de travail des travailleurs étrangers ou TKA ne soit pas compliqué et simplifié. Le ministre coordinateur de l'économie, Darmin Nasution, a déclaré que le gouvernement avait besoin de TKA pour encourager sa croissance économique. Cependant, il faut nécessiter un travailleur étranger qui maîtrise un secteur spécifique, comme dans le domaine de la technologie, en particulier le commerce électronique. Selon Darmin Nasution, jusqu'à présent, de nombreux travailleurs étrangers se sont plaints de la difficulté d'obtenir un permis de séjour. En donnant la facilité, le travailleur étranger peut être attiré pour encourager l'économie numérique. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, a admis que l'Indonésie avait besoin de travailleurs étrangers supplémentaires parce que l'Indonésie devient l'un des principaux pays destinataires d'investissements en Asie du Sud-Est ou ASEAN. Selon lui, certains investisseurs étrangers demandent au gouvernement de permettre à leur main-d'œuvre d'entrer dans le pays pour développer des injections de capital et d'affaires. Pour soutenir l'accélération du développement économique, il faut en effet des experts qui qualifient dans leurs domaines respectifs afin qu'aucune erreur de manipulation ne se produise. Faciliter le permis de séjour des travailleurs étrangers et de soutenir le programme d'accélération économique. il est légitime d'être fait par les parties prenantes actuelles pour réaliser l'Indonésie prospère et remplir des promesses de campagne. En outre, il faut souligner que les travailleurs étrangers qui sont autorisés à travailler sont des travailleurs qualifiés, comme des directeurs, des commissaires, des conseillers orientés de transférer les sciences et ne pas des travailleurs techniques sur le terrain. Il vise à protéger des jeunes main-d'œuvre qui sont potentiels contre la menace du chômage. Serviteur, c'est le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le 1er février 1979, l'Ayatollah Khomeini est retourné en Iran. Après 15 ans d'exil en France, enfin le leader spirituel de la communauté chiite, Ayatollah Khomeini est retourné en Iran le 1er février 1979. Son retour s'est produit après la chute de la dynastie Shah Pahlavi, suite à une manifestation massive et à des troubles politiques en Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini a été salué comme un héros national par la nation iranienne, en particulier la communauté chiite. Le 1er avril 1979, Ayatollah Khomeini établit la République islamique d'Iran. L'autre information est sur une navette spatiale Columbia explosée en 2003. La navette spatiale Columbia appartenant aux États-Unis a explosé dans le ciel lorsqu'elle atterrirait au centre de la station spatiale Kennedy en Floride le 1er février 2003. Sept astronautes ont été tués. L'officier de la NASA, ou National Aeronautics and Space Administration, a mentionné l'accident survenu lorsque la navette spatiale construite en 1981 se trouvait à une altitude de 60 000 pieds de la Terre à une vitesse de 20 000 km par heure. Avant d'exploser, la navette venait de terminer sa 28e mission après avoir décollé le 16 janvier 2003. Au cours de l'histoire, Columbia a effectué 28 vols. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le roi Gyanendra a fait un coup d'état en 2005. Le roi Gyanendra avait dissous le gouvernement, décrété une loi d'urgence et fait que le Népal soit isolé du monde international en déconnectant toutes les relations. Mais le roi Gyanendra a nié avoir fait un coup d'état. Il a déclaré avoir dissous le gouvernement du premier ministre Sher Bahadur Duba en raison de l'échec des élections générales et mis fin à la rébellion maoïste qui a tué des milliers de personnes. Pendant ce temps, l'acte du roi Gyanendra reprenant l'autorité au Népal qui a été accueilli avec l'inquiétude à travers le monde. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Le contrôle de la déforestation via une gouvernance des forêts à base communautaire. Afin de réaliser l'Indonésie avancée, indépendant et équitable, les ressources naturelles doivent être gérées de manière équilibrée afin d'assurer la durabilité du développement national. Cela a été déclaré par la ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, lors de l'ouverture de l'atelier de la forêt et de la déforestation en Indonésie à Jakarta, 29 janvier. Elle a dit que lié à la gestion des forêts, les principes généraux de la gouvernance et la durabilité pouvaient être vus de la fonction écologique, fonction économique et la fonction sociale. Il y a un changement de paradigme de la gestion des forêts, à partir de la gestion à base des bois d'être la gestion basée sur les ressources de l'écosystème et basée sur la communauté. Une autre, Madame Siti Nurbaya, a également souligné la nécessité pour le concept de durabilité dans la gestion des forêts au profit des générations futures. La génération actuelle en prend aux ressources naturelles des générations futures, dont les conditions et les accès des ressources naturelles actuellement doivent être ressenties par les générations futures ou avec les conditions et les meilleurs accès. Selon la ministre, en fait, de l'écosse de la déforestation provient de la conversion des forêts, les incendies des forêts, de la terre et la faible de l'utilisation spatiale et le contrôle des plans d'aménagement du territoire, l'exploitation illégale des forêts, l'empiètement des forêts et la mauvaise gouvernance forestière et la corruption. La détermination de la carte indicative de retard dans l'octroi de nouveaux permis, la 13e révision qui a été lancée en même temps sur Mme Siti Nurbaya, est une forme d'effort pour lutter contre la déforestation par le moratoire de licence sur les forêts primaires et des tourbières. Elle a également dit d'autres efforts du gouvernement forestier social, la réforme agraire et la mise en œuvre de l'évaluation environnementale stratégique et le système de la légalité du bois, le renforcement de la capacité institutionnelle et la capacité de gestion forestière au niveau inférieur sous la forme d'unités de gestion forestière ou FMU, contribue également à faciliter l'accès à la gouvernance publique car les efforts pour lutter contre la déforestation. Cet atelier a discuté la méthode de mesure, le calcul et aussi le rapport de la déforestation et la dégradation des forêts. Certains experts présents en tant que conférenciers, entre autres Adam Gérand, Red FAO Forestier, professeur Rizal Dibour, directeur exécutif de IPB, le docteur Arifin Rudianto, l'agent maritime et des ressources, le docteur Nur Mas Ripatin, directeur général du ministère du changement climatique, le professeur San Afri Awang, conseiller principal du ministre, Nurwa Jedi, le chef adjoint de l'information géospatiale thématique, l'agence d'information géospatiale, des représentants de l'Institut national de aéronautique et de l'espace ou l'APAN, et aussi président du partenariat et universitaire. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
La Coupe du Monde est l'un des plus grands événements sportifs qui peuvent être appréciés par les gens dans tout le monde. La Coupe du Monde 2018 aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 avec la Russie en tant qu'hôte. Afin que cet événement puisse être profité par les handicapés, le Football Momentum Asia ou FMA reconnaît RRI comme radiodiffuseur licencié de la Coupe du Monde 2018. Après une conférence de presse au Galerie Triprasetya RRI mardi, le président de FMA, David Kim, à la Voix d'Indonésie, a déclaré « La raison principale de choisir RRI en tant que radiodiffuseur licencié de la Coupe du Monde 2018. »
For me, radio has more public interest than anything else. And I wasn't about to, yes.
Pour moi, la radio a plus d'intérêt que toute autre chose. Mais en même temps, nous devons faire quelque chose qui va profiter à tout le monde, surtout les 1,5% de la population qui ne peuvent pas voir et apprécier le jeu. L'autre partie va sûrement changer toutes les choses concernées par la Coupe du Monde en une grande opportunité de faire de la publicité et c'est suffisant avec la télévision. Donc, c'était ma principale raison de collaborer avec RRI. À la même occasion, le mémorandum d'accord entre Radio Republique d'Indonésie et FMA a été signé. RRI, qui a plus de 90 stations de radio Indonésie, espère apporter la Coupe du Monde jusqu'aux régions reculées d'Indonésie. Le membre du Conseil consultatif présidentiel, Agum Gumelar, le secrétaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, Gatot Dewa Broto, le président de la Commission nationale de la radio et de télévision, Julien Drey Darwis, et le personnel de direction de RRI ont assisté à la conférence de presse et au lancement de RRI comme radiodiffuseur licencié de la Coupe du Monde 2018. Le gouvernement indonésien, par le ministère de la Santé, a souligné l'importance d'améliorer la connaissance et la compréhension du cancer avant la Journée mondiale contre le cancer 2018. Le directeur de prévention et de contrôle de maladies du ministère de la Santé, Muhammad Subuh, à Jakarta, a dit que l'augmentation de la compréhension du public contre le cancer pouvait réduire la mortalité et la morbidité de la société. Selon lui, le niveau de compréhension élevé du public sur le cancer aura également un impact sur les changements de comportement en bonne santé dans la société.
Ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan pada Hari Kanker Sedunia. Yang pertama adalah
il y a certaines choses que nous voulons rappeler à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Le premier consiste à accroître les connaissances et la compréhension de la communauté au sujet du cancer. Les gens plus comprennent comment le cancer peut se produire, comment prévenir, comment avoir accès aux services. Nous réduirons les taux de morbidité et de mortalité de la maladie. Nous espérons qu'avec la compréhension du cancer, il va également développer la compréhension de notre comportement de vie sain. Je pense que ces deux choses sont très importantes concernant la commémoration de la Journée mondiale contre le cancer. La Journée mondiale contre le cancer est commémorée tous les 4 février de chaque année. Le thème commémoratif de la Journée mondiale contre le cancer de 2016 à 2008 est « Nous pouvons, je peux ». Ce thème vise à diffuser le message à tout le monde, à la fois collectivement et individuellement, pour jouer un rôle dans la réduction du fardeau et des problèmes du cancer. En Indonésie, le fardeau du cancer est encore assez élevé. Sur la base des résultats de recherche sur la santé fondamentale en 2013, la prévalence des tumeurs ou du cancer en Indonésie est d'1,4 pour 1000 habitants, soit environ 347 000 personnes. Le cancer le plus élevé chez les femmes est le cancer du sein et du col d'utérus, alors que chez les hommes, c'est le cancer du poumon. Les Pays-Bas sont un pays qui dépend du secteur agricole. Le Royaume des Pays-Bas est le deuxième plus grand exportateur de produits agricoles au monde. Par conséquent, ce pays s'est continuellement engagé à réaliser le secteur de l'agriculture durable, y compris avec l'Indonésie en tant que pays partenaire de la coopération. Les projets de coopération agricole entre les Pays-Bas et l'Indonésie continuent à rechercher un secteur agricole durable. Cela a été transmis par l'ambassadeur adjoint du Royaume des Pays-Bas en Indonésie, Ferdinand Lachten, à la Voix d'Indonésie à Jakarta, mardi.
We want them to learn sustainable practices because if they want to continue also farming in the future.
Nous voulons apprendre des pratiques durables s'ils veulent continuer à cultiver à l'avenir. S'ils ne sont pas durables, la terre se dégradera et ils ne pourront plus l'utiliser pour l'agriculture. La durabilité est également un pilier essentiel de l'approche que nous utilisons pour réaliser les projets. Ferdinand Lasten a ajouté que le développement agricole durable a été fait par le gouvernement néerlandais il y a 2 décennies. L'un des efforts visant à réaliser le secteur de l'agriculture durable est de créer un système appelé Triple Hélice, qui implique des entrepreneurs, des organisations non gouvernementales et des établissements d'enseignement. Ce système sera également appliqué en Indonésie. Le président Joko Widodo a accepté la délégation du ministre sud-coréen de la Défense, Song Yong-mu, au Palais Merdeka Jakarta, mercredi. Le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizat Ryakudu, après avoir accompagné le président, a affirmé qu'à cette réunion, le président avec la délégation du ministre sud-coréen de la Défense ont discuté de l'intensification de coopération dans tous les domaines, y compris le domaine de la défense. Ria Mizat, Ria Kudu a expliqué, le président Joko Widodo a promis de revenir en Corée du Sud cette année. Comme indiqué le secrétariat du cabinet, le ministre de la Défense de la Corée du Sud, Song Yong-mo, a déclaré l'année dernière « Corée et Indonésie ont convenu d'améliorer les relations entre le partenariat stratégique spécial. Sur la base de cet accord, sa partie établira la coopération plus étroite dans divers domaines, y compris la défense, la diplomatie et l'industrie de la défense. » Song Yong-mo a également souligné que l'Indonésie et la Corée du Sud allaient de pair parce que l'Indonésie est considérée comme un pays qui est très important pour la Corée du Sud. Les efforts du Timor oriental pour se joindre à l'Organisation régionale de l'Asie du Sud-Est ou l'ASEAN est pleinement soutenu par l'Indonésie. La poursuite de l'adhésion du Timor oriental à l'ASEAN sera bientôt discutée par le secrétaire général de l'ASEAN à Jakarta. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, en marge d'une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Timor-Leste, Aurelio Guterres, à Gedung Pancasila, le ministère des Affaires étrangères à Jakarta, mercredi. Selon la ministre Retno Marsudi, concernant l'adhésion du Timor oriental à l'ASEAN, l'Indonésie veut encore voir le résultat des études liées à cette question. Mais en principe, l'Indonésie continuera à soutenir l'adhésion du Timor oriental à l'ASEAN. L'île de Bali est toujours une destination touristique préférée pour les habitants de la Slovaquie, bien qu'il y ait les nouvelles sur le Mont Agung. Le conseiller d'information sociale et culturelle de l'ambassade indonésienne de Bratislava, Lili Meliani, a dit à Antara jeudi que cette question se reflétait dans le nombre de questions des visiteurs du stand indonésien à International Travel Fair Slovakia Tour 2018 dans le bâtiment Expo Inceba, Bratislava, Slovaquie récemment. L'ambassadeur d'Indonésie en Slovaquie, Adiyat Widi Adiwoso Asmadi, a déclaré qu'en dehors de Bali, une destination touristique sur Sumatra est également devenue la cible des citoyens slovaques. À cette fin, l'ambassade d'Indonésie de Bratislava invite l'agence de voyage de Sumatra du Nord, Ravelino Tour et Dewi Mustika Tour, à promouvoir des destinations touristiques de Sumatra du Nord, en particulier le lac Toba et ses environs. Selon le président de Inceba, Alexander Rosin, l'Indonésie a un grand potentiel pour attirer les touristes étrangers d'Europe centrale et orientale. La participation de l'Indonésie est très appréciée. Serviteur, c'est le journal pour ce soir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Magazine Culturel. Et cette fois, nous vous invitons à voyager à la province de l'ouest de Sumatra et goûter une cuisine typique de cette région. Donc restez toujours avec nous à la voix de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission via www.voinews.id ou bien par Loncourt. Maninjau Elang de Lac de l'Ouest de Sumatra, formé par l'éruption du Mont Sitinjau. Sa profondeur de 495 mètres avec une hauteur de 461,5 mètres et une superficie environ 99,5 km² renforce Sondo en tant que deuxième plus grand lac de l'ouest de Sumatra. L'emplacement est situé dans le district de Tanjung Raya, la région d'Agam, à environ 40 km au nord de la ville de Padang, la capitale de l'ouest de Sumatra. Ce lac possède des beaux paysages. Il est devenu l'une des sites touristiques préférés de la province de l'ouest de Sumatra. Vous pourrez profiter d'une variété d'activités de vacances, telles que la pêche, l'observation de fermes piscicoles, des eaux douces et profiter de la beauté du lac de Maninjau en bateau. En outre, vous pouvez également faire le tour du lac en vélo, en profitant de la beauté du lac depuis le plus haut sommet, appelé le sommet Lawang ou le puncak Lawang. Là-bas, vous pouvez également profiter d'une variété culinaire typique de cette région. Voyager au lac de Maninjau, n'oubliez pas de goûter la cuisine typique, entre autres palai rinua. Dans la langue locale, palai signifie le pepes. Le pepes est une façon de traiter la nourriture, généralement pour les poissons, avec la marinade enveloppée dans des feuilles de bananier. Rinua est un poisson endémique typique du lac de Maninjau. Le poisson est jaunâtre comme une allumette d'une longueur environ 2 cm. Rinua peut être transformé en différents types de cuisine comme rinua frit, rinua gulai, mais le plus célèbre est transformé en palai rinua ou le pepes rinua. Pour cuisiner le palai rinua, les poissons rinua sont mélangés avec la noix de coco râpée épicée, comme le curcuma, le piment, l'oignon, et ensuite enveloppés dans des feuilles de bananier. Et ensuite, ils sont brûlés. Il a un goût si délicieux et savoureux. Cette cuisine est si délicieuse, mangée avec du riz chaud. Elle peut facilement être trouvée dans les stands de nourriture le long du lac de Maninjau. Le prix est relativement bon marché, environ 3000 rupiah jusqu'à 5000 rupiah par paquet. Palai rinua et riz en avantage. Le poisson rinua fait partie de la famille des anchois. Le poisson d'anchois est l'un des bons aliments pour les diabétiques parce que ce poisson est une source de protéines à faible teneur en graisse saturée et ne contient pas de glucides. Parce qu'il est faible en graisse saturée et ne contient pas de glucides, le poisson d'anchois n'affectera pas le niveau de sucre dans le sang des diabétiques. Une teneur élevée en calcium rend ce type de poisson très efficace pour prévenir la perte de l'ostéoporose. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à demain.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Ma Langue, comme moyen de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Ma Langue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province des Moluques afin de connaître la langue Hitu. La province des Moluques était voisine avec la province de Papouasie à une longue histoire en Indonésie. En fait, la province des Moluques a été enregistrée dans l'histoire des grands royaumes du Moyen-Orient. Les Moluques est répertorié dans la tablette d'argile trouvée en Perse, en Mésopotamie et en Égypte. Dans cette tablette, les Moluques sont appelés pays riche de l'Est et a beaucoup de produits naturels tels que les clous de girofle, l'or et les perles. Certaines communautés des Moluques, en particulier celles qui se trouvent au pays Hitu Lama, utilisent encore le langage Hitu pour communiquer, mais le nombre de locuteurs diminue. En outre, de nombreux enfants à Hitu Lama commencent à ne pas maîtriser la langue Hitu. Chers amis, c'est quelques exemples de mots dans la langue Hitu. Yao, en français, je. Allez, en français, vous. Maap, en français, pardon. Ataena, en français, introduire. Yaulahan, en français, mon ami. Yaunala, en français, je m'appelle. Suka supu ale, en français, enchanté de faire votre connaissance. C'est l'exemple de conversation dans la langue Hitu. C'est une conversation entre Abel, Saleki et Joyce. Abel introduit Saleki à Joyce. Abel. Ha'o Joyce, allez habar ha'o. En français. Bonjour Joyce, comment ça va? Joyce. As Abel, yao iya iya niya. En français. Bonjour Abel, je vais bien. Abel. Boleh yau ata ena yau lahan wa ale. Je répète. Boleh yau ata ena yau lahan wa ale. En français. Puis-je vous introduire mon ami? Joyce. Boleh. En français. Oui, s'il vous plaît. Abel. Joyce, le saleki. Saleki, lahane Joyce. En français. Joyce, c'est saleki. Saleki. C'est Joyce. Saleki. How yau nala saleki? Je répète. How yau nala saleki? En français. Bonjour, je m'appelle Saleki. Joyce. How yau nala Joyce? Yau suka supuale. En français. Bonjour, je suis Joyce. Enchanté de faire votre connaissance. Saleki. Yau sehu suka supu ale. En français, enchanté aussi de faire votre connaissance. Si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voi@voinews.id. Je répète, voi@voinews.id. Ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia. The Voice of Indonesia et Twitter @VoiceIndonesia. C'était le programme Ma Langue, comédia de préserver la diversité des langues locales indonésiennes.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta, dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons des chansons nostalgiques chantées par Rin Jamain. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson intitulée « Feu d'amour ». Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était la chanson de Rinjamain intitulée Feu d'amour. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Le nom complet d'une chanteuse Rin Indrianti Jamain a atteint son âge d'or dans les années 1970. Elle est célèbre en tant que chanteuse de jazz indonésienne. En dépit d'être une chanteuse professionnelle, elle n'a jamais suivi à un cours de chant. Elle ne chante que des autodidactes et essaie d'apprendre de sa sœur Ida Jamain, qui est populaire en tant que Jamain Sister. Commencer sa carrière en chantant du jazz tout en suivant le spectacle sur TVRI dans les années 1970. Après cela, en 1976, il a terminé l'enregistrement de son premier album avec Jack Lesmana, une figure de jazz indonésie intitulé Feu d'amour, créé par Yahya, était assez reçu sur le marché à cette époque. Bon, serviteur, écoutons maintenant l'autre chanson de Rin Jamain intitulée Donnez-moi l'espoir. Bonne écoute. Le succès de l'album Ring Jamaïn, intitulé Feu d'amour, ne peut pas être séparé de la musique jazz qui est bien emballée, si bien qu'il est amical à écouter en ne perdant pas les caractéristiques et les nuances du jazz lui-même. En 1978, elle a enregistré à nouveau un deuxième album intitulé L'âme, suivi d'un troisième album intitulé Maître et nous en 1979. Dans son troisième album, il fait entrer des éléments de bossa nova avec d'autres musiciens tels que Yopi Item Combo et Abadi Sussman Big Ben. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici le dernier chanson de Ring Jamaïn intitulé Crépuscule à la frontière de la ville. Bonne écoute et à demain. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.